lumière par la paix Marie Dominique Philippe sur la personne à Rimont le 29 janvier 2002.
Le docteur Pascal Idé parle d'une autonomie vitale de l'embryon. Il devient fœtus au bout de 8 semaines. Et on voit à cette période qu'il y a 2 rythmes différents, le fœtus et la mère, sans sens du toucher. Pouvez-vous préciser si l'autonomie de la personne humaine est différente de l'autonomie vitale du fœtus? J'espère. Chez certaines personnes, ça demeure. Depuis la naissance, je suis le même être, et donc je suis toujours la même personne. Non, c'est faux, ça. C'est tout à fait faux comme article. C'est-à-dire, vous voyez, il considère la personne comme un principe. Moi, je voudrais savoir quel principe. Bon, je sais, il a fait ses études à l'IPC. Je sais l'enseignement qu'on donnait à l'IPC. Puisque j'y étais. Et la personne n'est pas un principe. C'est une manière de vivre. C'est très différent. Donc, dans une personne, il y a des éléments différents, et c'est ce que nous essayons de voir, les différents éléments qui interviennent directement pour la personne. C'est un pos, la personne. Alors, l'erreur de la scolastique, et l'IPC est entièrement dans la scolastique. Alors, l'erreur de la scolastique, c'est de confondre l'interrogation du TST et du POS. Bon, je réagis violemment parce que, au fond, l'enseignement métaphysique que je vous donne essaie justement de distinguer le TST et le POS. Tiesti, qu'est-ce que c'est? Le pose comment? Auguste Comte, qui est un contemporain pour nous, Auguste Comte, à Paris, de temps en temps, vous passez devant une église du positivisme. Si vous avez le temps d'y arrêter, elle est fermée ordinairement. Une église, c'est une église d'Auguste Comte. Bon, Auguste Comte a l'avantage d'être très gros. On comprend tout de suite les erreurs. Mais Auguste Comte a eu une influence énorme. Beaucoup de savants sont positivistes. Le positivisme, c'est effrayant. Parce que c'est uniquement ce qui existe. Il n'y a rien d'autre. Pas un principe, uniquement le fait. C'est tout. Alors, au point de vue du fait, on ne distingue pas le principe et le pos. Dans la scolastique, il faut bien se le dire, hélas, il y a du positivisme. Qu'est-ce qui lutte contre le positivisme? C'est la finalité. Alors c'est ça la finalité qui me permet de distinguer principe et manière d'être. Nous avons tous notre manière d'être un religieux. Mais nous avons tous les mêmes principes de la vie religieuse. Mais nous les vivons différemment selon notre manière propre, notre personnalité. Il y a une personnalité religieuse c'est bien, je ne vis pas comme un chef d'entreprise. On a sa personnalité religieuse et on a la personnalité d'un chef d'entreprise. Regardez la personnalité de quelqu'un comme Michelin. C'est net. C'est toujours agréable de parler avec lui. Parce qu'on voit bien. Qu'est-ce qui caractérise la personnalité d'un artiste? Et pourtant, vous avez les mêmes principes. Vous êtes intelligent, mais vous n'êtes pas artiste. Vous voyez, c'est très cru, mais ça, il faut arriver à le distinguer. Et il faut, c'est capital, hein. Pour le positiviste, Auguste Comte, il faut de temps en temps lire Auguste Comte, quand on est très fatigué. Alors on se dit, ah, mais c'est pas si bête. Parce que c'est la fatigue d'une civilisation. On devient Auguste Comte. Alors, il montre, et il trouve que d'être fatigué, c'est normal. Oui. Alors, Auguste Comte distingue le comment du pourquoi. Et il dit, le pourquoi, c'est les enfants. Oui, une civilisation jeune. On se pose des quantités de pourquoi. Je me souviens, la première fois que les TGV ont circulé, la première fois, il y avait un petit gosse qui tenait la main de sa mère, puis on voit le TGV. Qu'est-ce que c'est, maman? Qu'est-ce que c'est, maman? Alors la mère répond, TGV, ça explique beaucoup. Hein. Pour l'enfant, TGV, ça explique ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est que TGV? Et il a repris la question, mais qu'est-ce que c'est que TGV? Moi j'écoutais, et j'entendais la manière dont la mère répondait, oh, ah, si tu vas voir. Donc elle n'a pas expliqué. Elle a arrêté l'interrogation. Ce qui est très mauvais au point de vue éducation. On ne doit jamais arrêter une interrogation. Jamais. On peut dire, tu attendras, alors tu vas expliquer, mais vous voulez répéter TGV, ce n'est pas une explication. Ça ne signifie rien du tout. C'est vouloir expliquer par le nom. Or, le nom n'explique rien. Le positivisme dit que tous les pourquoi, c'est les enfants. L'homme sérieux, c'est le comment. Et c'est pour ça que le positivisme supprime toutes les pourquoi. Et avant tout, le pourquoi de la finalité. Et on est uniquement au niveau du comment. Oui, alors, dire que le fœtus est personne, puisque c'est l'article qui donne dans le vivant, il est vivant. Alors, le fœtus est vivant, mais n'est pas une personne. Pourquoi il n'a pas d'autonomie? Dire que le fœtus a l'autonomie, de la part d'un médecin, c'est cru. On sait très bien que le fœtus ne peut pas quitter le milieu maternel. Il est terriblement dépendant. Alors si, même quand on est dépendant comme un fœtus, on est autonome, je veux bien, mais on joue sur les mots. C'est pas parce qu'il est vivant qu'il est autonome. Alors on identifie vie et autonomie. C'est pas la même chose. Le vivant parfait est autonome. Mais le vivant embryonnaire n'est pas autonome. Alors, ceci regarde la manière d'être. Pensez à votre autonomie. Quelle autonomie on a quand on est novice? Quelle autonomie on a quand on a fait des premiers vœux? Et puis après, l'autonomie, c'est quelque chose de très particulier, mais c'est une manière de vivre. C'est pas un principe, c'est une manière de vivre. Donc c'est comment vivez-vous? Alors voyez, pour lui, je reprends, parle d'une autonomie vitale de l'embryon. Je dis que l'embryon soit vivant, d'accord. Mais il n'a pas d'autonomie, il est totalement dépendant de sa mère. Il devient fœtus au bout de 8 semaines. Oui, tout à fait, au bout de 8 semaines, à peu près. Au bout de 8 semaines. Alors, c'est qu'il a un cycle de vie qui est autonome à sa mère. Alors, on peut dire qu'à ce moment-là, il a une certaine autonomie, c'est-à-dire, je ne dirais pas autonomie, il a quelque chose de particulier qui est propre à lui. Et on dira, il y a un individu propre, mais dépendant de sa mère. Puisque à 8 semaines, s'il est séparé du sein maternel, il meurt. On ne le sauve pas. Impossible de le sauver. On n'arrive pas à reproduire artificiellement le sein maternel. Et on n'arrivera jamais. Ça, il devrait voir ça. Et c'est intéressant de voir ça, justement. Parce que ça veut dire que, justement, qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas artificiellement faire. Quelque chose de naturel. Alors, avec la philosophie d'Aristote, la différence des sensibles communs et des sensibles propres. Les sensibles communs, vous pouvez les refaire et faire quelque chose de très semblable. Mais les sensibles propres, non. Or, l'embryon, étant donné sa fragilité, est sensible au sensible propre. Le vivant fait la différence entre le sensible propre et le sensible commun. Ça, c'est capital. Parce que si on est dans une vision scientifique, on veut toujours tout refaire. L'expérimentation. Et on peut refaire les sensibles communs, mais pas les sensibles propres. Alors, si on parle de la personne, on ne parle pas en scientifique. On parle en philosophe. Puisque la personne a une finalité. Quelqu'un qui n'a pas de finalité, est-il une personne? Voilà la question. Il est un individu. Il est un mouton. Celui qui a une finalité commence d'avoir son autonomie. Est-ce qu'en étant novice, on peut avoir une personne? Je comprends. Parce qu'on est novice volontairement. On veut passer par là. Ça fait partie du cursus. Et alors, on passe par là. Mais on le fait volontairement. Et on accepte volontairement l'indépendance. Accepter volontairement une dépendance, c'est d'être libre. Tandis que pour le positiviste, celui qui dépend n'est pas libre. Un novice n'est pas libre. Un novice est libre d'être novice. Alors, pouvez-vous préciser si l'autonomie de la personne humaine est différente de l'autonomie vitale du fœtus ? C'est sûr. L'autonomie de la personne, elle naît avec la finalité. Des quantités de personnes humaines ne sont pas des personnes, ce sont des individus. Et vous n'avez de personnalité que quand vous savez ce que vous faites, et où vous allez, et où vous irez. Et le fœtus ne sait pas, du moins, je crois, je me souviens plus quand j'étais fœtus. Peut-être que vous, vous vous souvenez, quand vous étiez fœtus, ce que vous étiez, et que vous étiez très déterminé, et vous saviez très bien ce que vous alliez devenir. Moi, j'avoue que je sais que je l'ai été, mais je ne me souviens plus. Ça, c'est la nature. C'est la nature d'un être vivant qui commence par là. Donc, voyez, alors, pouvez-vous préciser l'autonomie de la personne humaine est différente de l'autonomie. L'autonomie de la personne humaine, c'est d'avoir une finalité et d'orienter sa vie vers cette finalité. On est une personne quand on sait où on va. Quand on ne le sait pas, on est mené, on est mu. Des quantités de personnes, des quantités d'hommes, aujourd'hui, ne sont pas des personnes. Et tout est fait dans l'éducation pour faire que l'individu reste le plus possible individu. Et sa personnalité est commune, c'est le bien commun. C'est plus facile à conduire quand on a des individus qui ne savent pas où ils vont. Et on leur indique, et ils suivent. Est-ce que le régime totalitaire communiste formait des personnes ? Ou est-ce que le régime totalitaire communiste formait des individus ? Faites la différence entre l'individu et la personne. Que le fœtus soit un individu en vue d'une personne, très bien, en vue d'une personne. Mais il n'est pas une personne. Alors, pouvez-vous préciser l'autonomie de la personne humaine et la différence de l'autonomie vitale du fœtus ? Bon, l'autonomie vitale du fœtus, c'est sûr. C'est un individu particulier. Alors, son autonomie vitale est très limitée. Il lui faut un milieu tout à fait particulier et complètement adapté au fœtus. Donc, il est extrêmement limité, son autonomie. Mais elle est très forte, puisque elle dépasse tous les obstacles. Et elle arrive à dépasser jusqu'à la naissance. Et c'est toujours cette autonomie qui fait que l'enfant doit naître. Depuis la naissance, je suis le même être. Et donc je suis toujours la même personne. Oh, quelle belle personne vous êtes alors. C'est admirable. Un enfant, est-ce que quand vous voyez un petit enfant d'un jour, vous dites à la mère, oh quelle belle personnalité, oh quelle belle personne. Vous dites, cet enfant, il est délicieux, il est gentil, il ressemble à sa mère, il ressemble à ce que vous dites. Tout de suite, la ressemblance. Vous le mettez relatif. C'est juste l'inverse de notre personne. L'expérience. La mère ne dira pas et de se prendre. Et il dira, il a un sacré caractère, cet enfant. Ah oui, vous voyez, un sacré caractère. Donc elle regarde le caractère. Est-ce que le caractère, c'est la personne ? Peut-être que vous prenez comme personne une définition tout à fait particulière et vous ramenez la personne à l'individu. On distingue l'individu à la personne. Et je crois qu'on le fait dans toutes les langues, ça. L'individu, il est évident que le fœtus est un individu. Mais il n'est pas une personne. Il est en vue d'une personne. Il a un sacré caractère. Et quand vous dites qu'il a un sacré caractère, vous voulez préciser qu'il y a en lui une vitalité très particulière et unique, qui n'est ni son père ni sa mère, unique. Il ressemble à son père ou à sa mère, mais ou à son grand-père, mais il est quelque chose d'unique. Ah, ça, très bien, l'individu. Vous voyez, on confond individu et personne. Alors, je crois qu'il faut respecter la distinction. Vous pouvez définir ce que c'est qu'un individu, un vivant individuel, et vous précisez ce que c'est qu'une personne. Vous devenez une personne. Et vous êtes un individu qui, de plus en plus, s'individualise. Vous êtes de plus en plus individualisé. Et dans la vieillesse, l'individu passe devant la personne, exactement comme chez le fœtus. Il est un individu qui est en vue d'une personne. Mais la personne est très virtuelle. Elle n'est pas en acte. Je ne peux pas définir la personne par l'individu, par l'embryon. Et je ne peux pas dire que l'embryon est une personne. On joue sur les mots, alors. Parce que, au fond, pour eux, la personne, c'est l'âme. L'âme n'est pas une personne, c'est un principe de vie. C'est plus, c'est le principe de vie de la personne. C'est plus radical. Alors, la question se pose, est-ce que le fœtus, il y a déjà l'âme ? C'est un très gros problème, ça. C'est un très gros problème. Et au fond, en réalité, c'est ce problème-là qui est en dessous. C'est le problème de l'âme. Et il faudrait beaucoup mieux de le dire. Ce serait plus clair. Vous comprenez ? Est-ce que chez le fœtus, il y a une âme ? Bon, le problème au Moyen-Âge ne se posait pas. Il était très raisonnable au Moyen-Âge. Ce que saint Thomas nous dit, est-ce que le progrès scientifique permet de contrarier, de s'opposer à la doctrine de saint Thomas ? Est-ce que la science peut me dire quand l'âme est créée ? D'abord, au point de vue scientifique, je ne sais pas ce que c'est que l'âme. Donc, puisque le savant ne sait pas ce que c'est que l'âme, il ne peut pas savoir quand l'âme apparaît. Quand l'âme est là, il ne sait pas ce que c'est. La notion de l'âme échappe à la science. est-ce que le progrès scientifique me permet de dire quand l'âme est créée ? Non, puisqu'ils ne savent pas ce que c'est. Vous voyez, il faut prendre le problème d'une façon très radicale. Est-ce que le savant peut savoir ce que c'est que l'âme ? L'âme, au point de vue philosophique, ce que dit Aristote, elle vient d'autre part, et pas du monde physique. Elle vient d'un autre. Et le philosophe pourra préciser, elle vient d'un autre, elle vient de l'être premier, parce qu'elle est spirituelle. L'âme, scientifiquement, je ne peux pas savoir ce que c'est. Alors, on désire faire de la science la seule connaissance. Voilà le positivisme. Faire de la science la seule connaissance. Si la science est la seule connaissance, évidemment, je ne peux pas savoir quand l'âme anime mon corps. Je peux seulement dire que quand l'être humain existe, il est un vivant. Mais je peux très bien dire, je ne peux pas savoir quel est le point de départ. Le philosophe parlera de l'âme. Mais c'est le propre du philosophe de parler de l'âme. La philosophie n'aurait que ce but de découvrir l'âme, ça montre qu'elle doit exister. Mais la lutte d'aujourd'hui et la lutte de demain, ce sera justement de dire « il n'y a pas d'âme ». On y arrive déjà maintenant, on le dit déjà, on l'affirme. Pourquoi ? Parce que l'âme échappe à la science. Tout ce qui échappe à la science n'existe pas pour l'homme scientifique. Et l'homme scientifique, c'est l'homme. Alors vous voyez comment on glisse. On est en plein positivisme. Hein ? Pas le positivisme d'Auguste Comte qui est naïf. Mais on est en plein positivisme et ça gagne la théologie. Et la plupart du temps, les théologiens seront positivistes, comme les savants. Je crois que c'est le danger actuel extrêmement net. C'est que, puisque on ne peut pas expérimenter l'âme, elle n'existe pas. Alors, c'est pour ça que Pascal, Hyde, ne parle pas de l'âme, il parle de la personne. Mais c'est une grosse erreur, l'âme n'est pas une personne. Alors, vous arriverez à préciser que l'âme est une personne, est à la racine de la personne. Elle est le principe, elle est la source. Mais toute la question très difficile, au point de vue philosophique, quand je meurs, séparation de l'âme et du corps. On a une âme séparée. Est-ce qu'une âme séparée du corps est une personne ? C'est une personne veuve. Veuve de son corps. Alors qu'il vit tout en pleurant. Et c'est vrai, c'est pas naturel. d'être une âme séparée. C'est pas naturel. L'âme humaine demande d'habiter un corps. C'est sa maison. C'est sa demeure. Quand l'âme est séparée, qu'est-ce qu'elle devient ? Je n'en sais rien, philosophiquement. Je n'en sais rien. Mais je peux philosophiquement dire que il y a une séparation violente de l'âme et du corps. Et c'est la mort. Et la mort est une séparation violente. C'est que la mort est naturelle. Oui, la mort est naturelle. Et si Adam n'avait pas péché, et donc il y a dans la mort un regard, une dépendance à l'égard du péché. Et ça, le savant ne peut pas le dire. Le savant est obligé de dire que la mort est naturelle. On arrive au terme du boulot. La vie, c'est fini. Il n'y a plus de fil. Parce que dans la vision ancienne, c'est toujours comme ça. La bobine est terminée. Hein. On arrive au terme. Donc c'est naturel. Pour le savant, la mort est naturelle. Pour le philosophe, est-ce que la mort est naturelle ? Le philosophe doit dire la mort n'est pas naturelle, puisqu'il était naturel que l'âme soit unie au corps. Il n'est pas naturel que l'âme soit séparée du corps. C'est un état que je constate, qui arrive toujours. Tous les hommes et toutes les femmes que je connais meurent, et moi-même, on est condamné à mort, on est tous condamnés à mort. Ça va arriver, plus ou moins vite, mais je ne sais pas quel est le premier parmi vous qui mourra. J'en sais rien. Est-ce que ce sera moi ? Normalement, ça devrait être moi. Puisqu'on prend l'âge. Mais on ne sait jamais. Alors évidemment, quand on meurt par accident, quand on meurt avec une maladie, accidentellement, il est mort. Mais c'est très, très curieux, la question de la mort. Je comprends très bien que ça fascine les philosophes et que ça fascinait Sartre. Mais il en avait une peur bleue. Parce que je connaissais un grand ami de Sartre. Et il me parlait à la fin de la vie de Sartre que Sartre était très angoissé, terriblement angoissé. Alors je lui ai dit, est-ce que vous croyez que ça lui ferait du bien que j'aille lui dire bonjour ? Alors il m'a dit, il faudrait surtout l'avertir, parce qu'on ne peut pas approcher Sartre. Alors il a demandé lui. Alors il lui a demandé, alors Sartre, alors il a dit, un de mes amis voudrait vous dire bonjour. Alors il a dit, est-ce que c'est un curé ? Tout de suite. Il a dit, oui, c'est un curé. Oh, alors non, non, non. Il a refusé la peur de la mort. Et c'est vrai, on a tous peur de la mort. Celui qui dit qu'il n'a jamais peur de la mort, il n'y est pas passé, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais tout le monde a peur de la mort. on a plus ou moins peur de la mort. On domine cette peur parce qu'on est paisible, mais on a peur. C'est quand même un choc assez fort. Hein. L'âme et le corps, séparés. Oh là là, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait du pauvre corps? Un cadavre. La première vision de l'âme, c'est d'être le cadavre. Première vision de l'âme. Pas drôle. L'âme, elle est libre. Je n'en sais rien philosophiquement. Et je ne peux même pas écouter ce que les morts pourraient me dire. Parce qu'il y a des gens qui inventent des choses extraordinaires là-dessus. Ils peuvent le faire, personne ne peut critiquer. C'est un domaine où on est libre d'inventer des tas de choses, puisque personne n'est revenu. C'est vrai que la mort est... Alors, tout ça pour montrer que la personne humaine est une manière de vivre mon autonomie, mon intelligence, ma volonté, ma prudence. Tout ça, je le vis. Et je le vis de telle et telle manière. C'est sûr. Un clochard. Est-ce que c'est une personne? C'est quelqu'un qui n'a plus le sens de la dignité humaine. Normalement. Pourquoi? Parce qu'il a essayé, sans doute, d'être une personne. Et on lui a sans doute dit toujours que c'était un imbécile. Et au bout d'un certain temps, il y a cru. Et il s'est retourné en se disant qu'il pouvait être comme mendiant, un clochard. Mais il est une personne. Plus que l'embryon. C'est une manière de vivre que la société l'a obligé de vivre. C'est la société qui l'a chassé parce qu'il y avait un certain critère qu'il fallait avoir pour être un citoyen libre. Tant que vous avez une carte de visite, vous êtes une personne. Considérée comme telle. Oui, au fond, la personne, au point de vue philosophique, c'est très complexe. C'est ce qui fait mon unité de vie. Ma personne existe même quand je dors. Je dors comme une personne humaine. Et je me réveille comme une personne humaine. Donc, c'est une manière d'être qui implique des éléments essentiels et c'est ces éléments essentiels que j'étudie, étudier le pos, la manière d'être de la personne. Mais la personne n'est pas un principe. Mais mon âme est un principe. Mon corps est un principe, mais pas ma personne. Alors, quatrième élément, c'est la personne, c'est la prudence. L'homme n'est personne, n'est une personne que par la prudence. La prudence fait le lien entre l'âme spirituelle et le corps. C'est pour ça que la prudence est quelque chose de si important. Parce que c'est dans ma prudence et c'est par ma prudence que je vois ce que je peux faire et ce que je voudrais faire. C'est quand même très curieux cela, qu'il y a dans l'homme une possibilité d'avoir une espérance, un désir, et de reconnaître qu'il y a des quantités de désirs qui ne se réalisent pas, qui avortent. Et ça, ça se réalise dans l'homme. Et chaque fois qu'un désir qu'il a eu sérieusement n'est pas réalisé, il y a chez l'homme une blessure, il est amputé. Je me souviens cette expérience que je n'ai pas eue, mais que je connaissais bien le professeur de philosophie de Lausanne. Et il a eu une maladie, il a été obligé de s'amputer le bras. Alors, quand je le voyais, peu de temps après, il me parlait de son bras amputé. Il parlait de cette expérience curieuse que l'âme vit avec un corps complet, normal, et qu'il avait l'expérience de son corps diminué, amputé. Son âme n'était pas amputée. Et qui comprenait alors beaucoup mieux la composition de l'âme et du corps, la personne humaine, par la prudence, vit de cette unité de l'âme et du corps, de l'intelligence et des sens, de la volonté et de la passion amour. On vit sur ce champ de bataille. C'est vrai, c'est un champ de bataille. On voit nos instincts et on voit ce qu'on devrait faire. On constate toutes les possibilités qu'on pourrait faire et ce qu'on ne peut pas faire, les limites. On constate ces virtualités. Regardez les virtualités d'un enfant, d'un gosse de 15 ans. C'est fou. Un homme mûr, il est mûr dans la raison que des quantités de ses virtualités sont arrêtées. Il a beaucoup moins d'appétit de réaliser telle ou telle chose. Il sait ses limites. Et savoir ses limites, c'est terrible, mais c'est la prudence. Notre Seigneur le dit du reste de façon très nette. Quand on veut construire quelque chose, on regarde d'abord les possibilités qu'on a. Autrement, tout le monde dira, il a commencé de construire et puis s'est arrêté. Et au fond de notre vie, ça arrive constamment, on commence de construire, on est obligé d'arrêter. Et la prudence consiste à ne pas commencer de construire quand on ne peut pas continuer. Mais alors l'homme trop prudent n'arrive jamais à rien faire parce qu'il a peur de devoir arrêter. Donc la prudence exagérée fait qu'on ne fait plus rien. L'homme doit être prudent d'une façon suffisante pour laisser les possibilités d'expansion, d'évasion. C'est très complexe, la prudence. Et je crois que, philosophiquement, c'est le rapport entre l'âme et le corps, sous ses différents aspects, l'aspect connaissance, l'intelligence et les sens, l'aspect de la volonté, les intentions qu'on peut avoir et les désirs fous de l'imagination. Et donc, l'imagination va jouer un rôle très important vis-à-vis de la personne. Parce que c'est l'imagination qui sera toujours là dans ses rapports entre l'âme et le corps.